BFM Business avec la Tribune et Air & Cosmos présentent Air & Défense, Jean-Baptiste Huette.
Bienvenue dans Air & Défense. Cette semaine, ça fait 4 ans. 4 ans eh bien, que la guerre fait rage entre l'Ukraine et entre la Russie. Une guerre où, plus qu'aucune autre, les drones ont un rôle majeur sur le champ de bataille. Et ça, on va en parler avec notre invité hein, qui est Henri Sédoux, le PDG des drones Parrot, qui vient de signer un très beau contrat d'ailleurs avec la Finlande. Mais que se passe-t-il chez Pratt & Whitney? Le motoriste américain tourne au ralenti, il ne livre plus assez rapidement ses moteurs. Résultat, des centaines d'avions sont cloués au sol. Ce sera le décryptage avec Léo Barnier d'Air & Cosmos. Enfin, dans Signaux faibles, comment l'espace révolutionne les cultures. Vous le savez, c'est en ce moment le salon de l'agriculture et on ira faire un tour chez Farmstar en fin d'émission.
Air & Défense, l'interview.
Henri Sédoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Parrot. Merci beaucoup d'être avec nous dans Air & Défense sur BFM Business. À mes côtés pour vous interroger, comme chaque semaine, Michel Cabirol, rédacteur en chef du pôle aérospatial défense transport à la Tribune. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Monsieur Sédoux.
Henri Sédoux, les drones Parrot, finalement, du rayon des jouets il y a quelques années, aujourd'hui, on les retrouve au cœur du champ de bataille. Vous avez opéré dans les années 2020, en 2021, je crois, une inflexion absolument stratégique qui vous a emmené justement du côté du drone de loisir au monde industriel et militaire. Et il semblerait que ça vous réussisse. Vous tutoyez en tout cas les 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous venez là, tout récemment, de signer un nouveau contrat. On reparlera des autres, mais en tout cas avec la Finlande pour leur vendre un drone Anafi, c'est le nom de la plateforme, UKR, parce que c'est ça qui est intéressant, avec un retour d'expérience du terrain en Ukraine. Expliquez-nous un petit peu.
Donc, Parrot, c'est une boîte de technologie, et la techno, c'est extrêmement vivant, ça change tout le temps. Donc, nous, on a créé des drones il y a 15 ans, grand public, pour faire quelque chose qui, entre le jouet et le jeu vidéo. Et il s'est trouvé que cette technologie, ces algorithmes ont été utilisés ou ont intéressé les forces de sécurité, les pompiers, les policiers, les armées. Et donc, tout naturellement, on s'est mis à regarder leur usage, à quoi ils servaient, et à développer des drones plus spécifiquement pour la sécurité. On était obligé de le faire parce que le marché du drone de loisirs, le drone il a été pris par les Chinois et on peut rien faire contre l'écosystème de Shenzhen. Et donc maintenant, on est 100% à développer des drones professionnels et des drones pour la sécurité.
Comment vous avez séduit, si j'ose dire, les Finlandais avec votre drone? Qu'est-ce qui, selon vous, les a intéressés et a pesé dans leur décision finale?
C'est l'histoire de redresser l'entreprise, en fait. Ça nous a pris 5 ans. Il y a 5 ans, on a été contacté par les Américains en disant « vos drones, vos caméras volantes, nous on aimerait bien qu'ils soient plus durcis pour les utiliser par nos utilisateurs, etc. » Et donc on s'est dit « on va s'intéresser à ça ». Et en particulier, il y a 3 ans, on a commencé à aller en Ukraine pour comprendre qu'est-ce qui se passait, comment le drone est devenu d'abord important et puis maintenant essentiel dans le moyen qu'ont les Ukrainiens de se défendre face à la full-scale invasion.
Qu'est-ce qui, alors, avec les contrats que vous avez signés en Finlande et puis je crois avant en Suède, qu'est-ce qui vous différencie des Helsing, des Takeover, des Delair? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez gagner encore ces contrats dans ces pays proches de la Russie en plus?
Donc le drone, à la lumière de la situation en Ukraine, la typologie des drones, elle s'est bien spécifiée. Donc on a le drone d'observation, un objet qui pèse 1 kilo et qui permet d'aller voir ce qui se passe à 10 ou 20 kilomètres. Et ça, Parrot est le champion de ça. On est technologiquement très avancé sur ce drone-là. Et puis après, il y a le drone FPV, le drone des Ukrainiens, la munition volante. Ça, c'est le drone à usage unique. Et puis, il y a aussi le gros drone de transport pour, par exemple, amener le ravitaillement sur la ligne de front. On emmène beaucoup en drone. Et puis, il y a l'avion d'observation. Ça, c'est plutôt les drones de Delair et de Quantum en Allemagne. Et puis, il y a le drone militaire, la munition, qui est, disons, un drone plus militarisé. Donc, nous, dans notre segment, le drone d'observation, on a investi énormément, plusieurs centaines de millions, hein, et on a vraiment un drone qui nous permet de gagner les appels d'offres.
Et qu'est-ce qui fait que les Ukrainiens ont confiance en Parrot aujourd'hui par rapport à d'autres acteurs qui entrent sur ce marché ?
Ce type de drone, et on a étudié plusieurs innovation technologique. Donc il y a une innovation technologique où je pense qu'on est très en pointe, on est vraiment à l'état de l'art, c'est la navigation optique, c'est-à-dire faire voler le drone quand il n'y a aucun GPS. Le drone vole quand il n'y a aucun GPS grâce à de l'IA, une IA qui est basée sur toute une série d'algorithmes. Disons que l'algorithme le plus visible, c'est le drone a une carte complète de l'Ukraine ou du pays dans lequel il opère, et il prend des images avec des caméras et il est capable de savoir précisément à quelques mètres près où il se trouve. Donc faire voler les drones en conditions extrêmement contestées de GPS, de jour comme de nuit, avec des caméras pour le jour et pour la nuit, on est, je pense, à l'état de l'art et probablement en avance sur nos compétiteurs.
Mais donc c'est pour ça que les Ukrainiens vous feront confiance, parce que vous êtes à l'état de l'art.
C'est un des. De toute façon, la techno, c'est fly to quality. Il y a pas de place pour un numéro 2, ou il faut être à l'état de l'art dans son domaine. Il y a beaucoup de domaines différents, mais donc nous, on est à l'état de l'art dans ce domaine-là. Sur le petit drone, on est à l'état de l'art aussi sur la résistance de la radio au brouillage. On a des radios très versatiles, et aussi sur les fonctions intrinsèques du produit, le temps de vol, ses performances. Et donc, c'est ça qui nous permet de gagner des appels d'offres. On a gagné récemment l'appel d'offres avec la Finlande, on a gagné l'appel d'offres avec la Suède, on vend des drones en France, on vend des drones aux États-Unis, on a beaucoup de clients aux États-Unis, des agences gouvernementales, le FBI, les Coast Guard, enfin on a de nombreuses agences gouvernementales au Canada où on vend autant de drones qu'en France, enfin donc on fait de la techno et on veut être à l'état de l'art pour le produit, le drone miniature de reconnaissance.
Il y a un élément fondamental que vous mettez en avant, qui est la souveraineté. Vous, le logiciel, l'ingénierie est française. La fabrication du drone se fait, si je ne dis pas de bêtises, en Corée du Sud. Et vous certifiez, en tout cas, le fait que dans ces drones-là, il n'y a pas de composants critiques chinois ou asiatiques. Alors, c'est particulièrement délicat, comme effectivement, de n'avoir aucun composant. Mais est-ce que c'est cette idée-là ?
Donc, ça c'est un prérequis pour vendre des drones aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, il y a une standardisation, une norme du contenu des drones. Et ce contenu des drones, il est de plus en plus restrictif. Qu'est-ce que vous avez le droit de mettre dans les drones ? Évidemment, la première chose, c'est que votre logiciel soit entièrement auditable. Ah. On ne veut pas que le logiciel ait des backdoors. Ça, c'est la première chose. Et ça,
vous devez l'ouvrir. Vous devrez ouvrir en grand le code.
Voilà. On doit permettre que le code soit audité par une personne de confiance. Et ça, de toute façon, le drone, c'est principalement un objet logiciel, comme l'iPhone. L'iPhone, c'est du matériel, mais la R&D, l'effort de conceptualisation du produit est fait en grande majorité par les algorithmes et tous les constituants logiciels de votre iPhone.
Le hardware drone, n'a pas d'importance presque, si j'ose dire. Le hardware du drone a beaucoup moins d'importance que le software.
Mais si tu veux, l'innovation, ce qui se passe en Ukraine, ce qu'on voit dans cette transparence de la ligne de front, cet usage massif de Starlink, cet usage massif des applications sur tablette, de gestion extrêmement fine de la situation, tout ça, c'est du logiciel. Le drone, c'est un des éléments de ce système logiciel qui, il faut bien le dire, a permis aux Ukrainiens de se défendre. C'est-à-dire, ce qu'il faut voir, c'est que les Ukrainiens ont trouvé dans le drone et ont trouvé dans la manière de déployer le drone, c'est-à-dire au-delà du drone, en fait, comment ça s'utilise, comment on s'en sert, ont trouvé un moyen de résister aux Russes dans un conflit où ils auraient dû perdre. Et le fait qu'ils résistent, c'est une victoire, si vous voulez. Donc, cette modernisation du front, cette transparence du front auquel le drone participe, c'est une révolution du logiciel, de la même manière que l'iPhone est une révolution du logiciel pour les télécoms et que l'Internet est une révolution du logiciel pour le grand public.
Alors, je regardais vos résultats du quatrième trimestre que vous avez publié récemment. Il y a effectivement une accélération au quatrième trimestre. Mais en même temps, quand on regarde le chiffre d'affaires annuel, il y a une stabilité, grosso modo, de votre chiffre annuel. Alors, comment on peut expliquer ça alors que le marché du drone explose et finalement, des entreprises comme la vôtre, en fait, ont des chiffres d'affaires assez stables? Est-ce qu'il y a trop d'offres? Pas assez de demandes? Comment vous analysez ça?
Alors, l'année 2025, ça a été une année très secouée, très perturbée du point de vue de nos clients. Nous, nos clients, notre activité, elle se fait sur appel d'offres, ce sont des agences gouvernementales. Au début de l'année 2025, on a eu un nouveau président aux États-Unis, il y a eu une nouvelle réglementation de droits de douane, qui a incité les donneurs d'ordre à attendre pour savoir quel était vraiment le coût réel des biens. Donc l'année avait très bien commencé et puis elle a été vraiment freinée par un manque de décision. Et la fin de l'année a été excellente. Donc moi, je vois ça par une difficulté, si tu veux, spécifique à l'année dernière à l'activité. Néanmoins, il me semble que ça, je réponds pour le chiffre d'affaires de parole, mais néanmoins, il me semble que la question du drone et la croissance de l'industrie du drone et pourquoi on n'a pas on a une croissance somme toute très raisonnable ou alors que on peut lire dans la presse que aujourd'hui les Ukrainiens déclarent que 80% des coups au but, 80% des actions militaires sont faites par des drones. Il y a deux ans, on parlait d'une guerre qui ressemblait à une guerre, disons, ancienne, où c'était une guerre d'artillerie. Vous vous rappelez qu'on parlait de production de munitions comme étant la question dimensionnante pour la guerre. Maintenant, cette question s'est décalée vers le drone. Et pourquoi, alors que le drone représente aujourd'hui l'essentiel de l'organisation ukrainienne au front, pourquoi ça n'a pas été encore pris en compte, disons, dans les pays européens ou aux États-Unis? Je pense que c'est parce que c'est très récent, c'est nouveau, mais c'est en train de se passer. Par exemple, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des articles qui indiquent que l'armée allemande est en train de passer des commandes de plusieurs milliards d'euros aux fabricants de drones allemands. Les Américains sont en train de commander des drones en quantité. Donc c'est en train de se passer, si vous voulez.
Mais quand on voit, par exemple, on imagine mal la France commander des millions de drones, alors que justement, en Ukraine, la vie d'un produit, d'un drone, ça, ce qui se dit, en tout cas, 4 mois d'espérance. Donc, on ne va pas stocker des drones par millions pour les utiliser éventuellement un jour, et alors qu'ils seront obsolètes.
Bien sûr. Donc, le drone, le million de drones, déjà, ce sont des drones munitions. La France n'est pas en guerre et la France n'a pas de raison d'acheter des munitions par million. Après, vous avez les drones d'observation comme nous les faisons, qui sont aussi des drones dont la durée de vie n'est pas, ne se compte pas en années. En tout cas, au front, c'est extrêmement contesté et les drones sont interceptés par des drones intercepteurs, etc. Mais il n'empêche que c'est un changement, disons, à la fois technologique et organisationnel. L'armée ukrainienne est organisée, entre autres, avec des unités de drones. Ces unités, il faut les entraîner. Ces unités, elles vont passer de la guerre d'artillerie ou de la guerre à l'ancienne à la guerre de drones, si vous voulez. Il faut tirer des drones, il faut que l'armée française apprennent à utiliser les drones. Et donc là, on parle de milliers de drones. Le drone remplace, c'est comme votre iPhone. L'iPhone, il remplace l'appareil photo, le player MP3, le téléphone GSM, l'ordinateur dans beaucoup de cas. C'est un pôle d'utilisation du logiciel au quotidien. Le drone, c'est la même chose. C'est un pôle d'utilisation du logiciel au front. Il faut apprendre à s'en servir. Un des grands succès des Ukrainiens, c'est la formation de dizaines de milliers de pilotes de drones. Une proportion considérable des soldats ukrainiens sont des opérateurs de drones ou des opérateurs de planification de drones. Et ça, c'est un changement de fond. C'est une évolution technologique, de la même manière que le téléphone cellulaire a remplacé le téléphone filaire, le drone va remplacer un nombre d'équipements anciens. Et donc, il faut que les Allemands, les Français, l'OTAN comprennent cette révolution. Et c'est dur à comprendre. C'est normal que quand on a perfectionné l'artillerie, l'aviation, on est reluctant à perfectionner des objets nouveaux, encore mal définis. Mais moi, je vous donne une conviction d'entrepreneur, si vous voulez. La high-tech, que ce soit les télécoms, que ce soit l'Internet, c'est une révolution du logiciel. Quelle est la différence entre Amazon et la distribution de produits? Amazon, c'est la distribution organisée par du logiciel. La même chose pour le smartphone. Le smartphone, c'est une révolution du logiciel. Le drone, c'est une révolution du logiciel pour les conflits. Et ça, c'est un avenir très important et auquel il faut, dès maintenant, il faut participer à cette évolution.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Henri Sédoux. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans Air Défense sur BFM Business. Le PDG de ces drones Parrot qui viennent de remporter un beau contrat pour 15 millions d'euros avec la Finlande. On va passer tout de suite au décryptage sur BFM Business dans Air Défense.
Air Défense, le décryptage.
C'est l'heure du décryptage dans Air Défense sur BFM Business avec Léo Barnier, rédacteur en chef chez Recosmos. Bonjour Léo.
Bonjour Jean-Baptiste.
Merci beaucoup d'être avec nous. La semaine dernière, Léo, alors on va parler de cette incroyable crise des moteurs qui fait rage chez Pratt et Whitney. La semaine dernière, le patron d'Airbus, Guillaume Faury, qui était l'invité d'Air et Défense, pointait du doigt donc le motoriste qui ne respectait pas, selon lui, ses engagements. On a des A320neo qui attendent leur moteur. Qu'est-ce qui se passe concrètement, Léo, avec cette histoire de moteur?
Alors, si Pratt & Whitney n'est pas en mesure aujourd'hui de tenir ses promesses vis-à-vis d'Airbus, c'est que le motoriste américain a enchaîné les problèmes avec son moteur GTF. Donc, ça affecte les livraisons d'Airbus, comme on l'a dit, comme Guillaume Faury l'a signalé, allant jusqu'à même mentionner Pratt & Whitney dans ses résultats financiers, ce qui est quand même très rare. Mais ça affecte aussi les opérations des compagnies avec plusieurs centaines d'avions cloués au sol. On parle de 600, voire 700 avions selon les estimations.
C'est beaucoup, hein.
C'est énorme. Comment ça va être, ouais. Voilà. Parce que outre les A320neo et A321neo d'Airbus, une partie, ceux qui sont motorisés par Pratt, ça affecte aussi les A220 et les Embraer E2. Donc ça fait quand même une grosse flotte. Et pour certaines compagnies, c'est très très dur à gérer, notamment les compagnies qui ont des petites flottes qui ne peuvent pas jouer sur l'effet de masse.
Très concrètement, Léo, qu'est-ce qui se passe au cœur de ces moteurs? On On comprend pas forcément pourquoi Pratt & Whitney met autant de temps à livrer les moteurs, pourquoi il y a des ralentissements dans les chaînes de production. Qu'est-ce qui se passe au cœur de ces moteurs? À quels problèmes sont-ils confrontés chez Pratt & Whitney?
Alors, c'est pas un problème nouveau. Alors, quand le moteur a été lancé, il y a toujours des petits problèmes de jeunesse, mais là, en 2023, ils ont découvert un problème de contamination sur des poudres métalliques, ce qui provoque une usure accélérée sur des certaines parties du moteur. Donc, ça réduit ce qu'on appelle le time on wing, la durabilité sous l'aile, le temps que peut passer un moteur sous l'aile d'un avion avant de devoir être démonté pour être révisé. Et ça oblige justement à accélérer tous ces cycles de maintenance. Ça oblige à faire ces inspections prématurément. Et comme le nombre de moteurs de rechange manque et le nombre de pièces manque, bah en fait, ça crée un embouteillage et on se retrouve avec des avions qui sont bloqués pendant plusieurs mois.
Ce sont des véritables boulets aux ailes, finalement, que traînent les constructeurs, les assembleurs, et en l'occurrence Pratt & Whitney. Est-ce qu'on peut espérer dans les semaines, j'en sais rien, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, une réelle amélioration? Est-ce que Pratt & Whitney a bien pris en compte le fait que ça commençait à devenir très chaud pour eux quand même?
Alors, sur le fait qu'il l'ait bien pris en compte, je pense, parce que pour en avoir parlé, alors c'était au dernier Salon du Bourget, ça remonte un petit peu, mais... Tout ce que Pratt a promis comme amélioration, apparemment, ils essayent quand même de le tenir. Ils font des efforts. Ils ont investi beaucoup dans les capacités de maintenance, justement, pour réduire un peu ces délais de maintenance. Et ils développent une nouvelle version du moteur, le GTF Advantage, qui est censé résoudre ces problèmes de durabilité. Mais on voit que malgré tous ces efforts, en fait, ils ont encore du mal. Normalement, la crise devait s'estomper vers 2026. On voit que ça risque de durer encore un petit peu parce que, comme l'a signalé Guillaume Faury, en fait, ils ont du mal à gérer et la livraison de moteurs neufs, la livraison de moteurs de rechange et toute cette mise en œuvre de maintenance pour arriver à remettre en service les avions le plus vite possible.
Un tout dernier mot, Léo. On pensait, alors benoîtement, que la crise de la supply chain était enfin terminée, ou en tout cas était sur le point de s'achever, que tous les sous-traitants s'étaient tous resynchronisés, que ça marchait bien, et puis boum! Un problème de moteur massif, est-ce que ça va s'étioler encore sur plusieurs années? Comment vous voyez les choses d'un mot?
Alors, est-ce que la crise de la supply chain est finie? Je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Clairement, la situation s'améliore. Guillaume Faury l'a dit, Olivier Andriès chez Safran l'a dit, la situation s'améliore. Mais comme l'a rappelé tout à l'heure Rolls-Royce qui présentait ses résultats, 2026 risque d'être encore un peu compliqué. Voilà, il reste encore certains goulots d'étranglement, tout n'est pas encore résolu. Mais globalement, ça va quand même beaucoup mieux.
On continuera à suivre ça avec vous dans Air Défense, Léo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, à rédacteur en chef Léo Barnier chez Air et Cosmos. Et j'en profite pour vous montrer la une de Air et Cosmos que vous allez présenter. Vous mettez à l'honneur la dissuasion nucléaire française, dont on va beaucoup parler la semaine prochaine, puisque le président de la République doit faire un discours sur ce thème de la dissuasion depuis l'île longue. Merci beaucoup, Léo. C'est l'heure maintenant de Signaux Faibles. Alors, cette semaine, on va s'intéresser à Farmstar. Alors, Farmstar, si j'ose dire, c'est l'étoile du berger moderne. C'est une start-up qui met au service des agriculteurs les outils spatiaux et en particulier les satellites de la constellation Pléiade Néo d'Airbus pour analyser les concentrations d'azote dans les cultures. On regarde ça au Salon de l'Agriculture avec Paul Valeur.
Dans le hall agritech du Salon de l'Agriculture, l'imagerie satellite commence à trouver sa place. Farmstar peut cartographier et analyser chaque jour des parcelles agricoles. Thomas Roux, responsable service client chez Airbus.
On va récupérer les images à chaque fois que le satellite passe au-dessus de nos antennes et ensuite ils vont entrer dans nos chaînes de production. Donc on va les croiser avec des données météorologiques, avec différents modèles et en sortie on va avoir donc des conseils agronomiques.
Ces conseils sont donnés en fonction de l'évolution de la biomasse, de la fertilité des sols, de la météo et du climat. Sur une même culture, ils peuvent varier au mètre carré près.
L'agriculteur va pouvoir mettre notre conseil sur sa clé USB et puis le brancher dans son tracteur. Donc il va visualiser sur son écran les zones sur lesquelles il faut mettre plus ou moins d'azote.
Car la bonne dose d'azote injectée va jouer directement sur le rendement. Elle est aussi bien utile pour faire des économies en engrais jusqu'à 40 euros par hectare et limiter l'impact sur l'environnement selon Montaigne Foch, responsable solution agri-environnement chez Airbus.
L'engrais coûte de plus en plus cher, on a quand même des prix qui sont assez volatiles, des molécules qui polluent les sols et les nappes phréatiques, donc ils ont tout intérêt à pouvoir moduler et mettre la juste dose d'azote au bon endroit, au bon moment dans la parcelle.
Un investissement annuel pour l'exploitant de 3 à 15 euros par hectare. Aujourd'hui, environ 2% des 700 000 agriculteurs français utilisent Farmstar pour optimiser leur culture.
Paul Valeur pour BFM Business qui était... depuis le Salon de l'Agriculture dans le 15e arrondissement à Paris. Air Défense, eh bien c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure.
Air et Défense sur BFM Business.